Bonsoir, province du Nord Kivu. La situation sécuritaire est très tendue depuis la semaine passée. Des combats opposent d'une part les FRDC au M23 à Mutao, localité située à une dizaine de kilomètres de Goma, et d'autre part les rebelles ougandais ADF Nalu qui occupent la localité de Kikingi après avoir été délogés de Kamango vendredi dernier par les FRDC. Kikingi est située à plus ou moins 90 kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Quelle analyse faire de cette situation et que faire pour y remédier? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 juillet 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dr. Valérien Mbalutuirandi. Il est ministre de l'administration du territoire, ordre public, affaires coutumières et reconstruction du gouvernement provincial du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir. Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et Jean-Jacques Wondo, analyste politique, expert en questions sécuritaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées du Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Monsieur Wondo, bonsoir.
Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Monsieur Kavota, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jacques de Goma au Nord Kivu. Combien de morts faudrait-il atteindre pour que notre gouvernement puisse agir une fois pour toutes afin d'en finir avec cette guerre obscure? Nous n'avons pas encore senti la volonté d'arrêter ces misères qui nous frappent. Papi Kalwa Ali Mamba, la seule solution pour remédier à la situation que traverse le Nord Kivu reste militaire. L'échec de la diplomatie a montré ses limites. Il est grand temps d'user de la force pour mettre fin à cette aventure qui n'a que trop duré. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les combats se poursuivent depuis ce matin à Mutao, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Goma. Hier, les FRDC et les rebelles du M23 s'étaient affrontés pendant plus de 5 heures dans cette localité du territoire du Nyiragongo. Les deux belligérants se rejettent la responsabilité de l'attaque. En termes de bilan, le porte-parole des FRDC au Nord qui vous parle de 3 morts côté FRDC. Pour d'autres sources, en territoire de Nyiragongo, ces affrontements ont occasionné une lourde perte dans les rangs du M23. Bernard Danyangi pour les détails.
Nul besoin de paniquer, la situation sur la ligne de front est entièrement sous contrôle des FARDC. C'est du moins ce que dit le porte-parole des FARDC au Nord Kivu qui rassure les populations de Goma. Les autorités coutumières locales des groupements Rusayo et Kibati ainsi que la société civile du territoire de Nyiragongo ajoutent que la ligne de front est désormais un peu plus au nord de Mutao. Hier dimanche, de 14h à 18h, les deux forces se sont affrontées dans la région de Mutao. Après une épreuve accalmée la nuit, les accrochages ont repris aux environs des 6h locales ce lundi. Jusqu'à la fin de la matinée, les FRDC pilonnaient encore les positions du M23 pour, selon le colonel Olivier Amouli, se rassurer que l'ennemi est repoussé le plus loin possible de Goma. Olivier Amouli parle de 3 morts côté FRDC. D'autres sources dans la région ajoutent qu'il y aurait eu 10 de morts côté M23 et 11 capturés. La MONUSCO, pour sa part, dit avoir mis ses troupes en état d'alerte maximale, prêtes à recourir à l'usage de la force létale en cas de nécessité pour protéger les civils à Goma. Goma, Bernardine Nguy, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, les rebelles ougandais ADF Nalu ont pris le contrôle de Kikingi depuis hier dimanche matin. C'est une localité située dans le groupement secteur de Rwenzori à plus ou moins 90 kilomètres au nord-est de la ville de Beni au Nord Kivu. Selon des sources de la société civile, déjà les rebelles ougandais ADF Nalu commettent des actes de pillage et des exécutions des civils dans cette localité. Les responsables du premier secteur des FRDC basés à Beni rassurent, des dispositions sont prises mobilise pour neutraliser l'ennemi et sécuriser la zone. Martial Papi Mukeba pour les détails.
La localité de Kikingi est sous contrôle des rebelles ougandais ADF Nalu depuis ce dimanche matin. Selon des sources locales, les ADF Nalu et leurs alliés identifiés comme Al-Shabaab ont investi cette localité après des affrontements avec les FRDC. D'après les mêmes sources, les militaires loyalistes, en petit nombre, ont décroché de Kikingi après un bref échange de tirs avec les rebelles. Ces informations sont confirmées par la société civile du territoire de Beni. À en croire son président, il s'agit des assaillats défaits par les FRDC vendredi soir à Kamango. Teddy Kataliko ajoute que l'objectif des ADF Nalu et leurs alliés est de couper tout ravitaillement aux FRDC à partir des Kikingi. C'est de cette localité que les FRDC ont lancé un assaut sur Kamango vendredi dernier, renseigne une source sécuritaire. La société civile du territoire de Beni accuse les ADF Nalu des actes de pillage et d'exécution des civils à Kikingi. Contactés, les responsables du premier secteur des FRDC rassurent. Selon eux, des dispositions sont déjà prises pour neutraliser l'ennemi et assurer la sécurité de cette contrée. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Docteur Valérien Baloutouirandi, je rappelle que vous êtes ministre de l'administration du territoire, ordre public, affaires coutumières et reconstruction du gouvernement provincial du Nord Kivu. Monsieur le ministre, comment se présente la situation en ce moment à Mouta où on signale des affrontements entre FRDC et M23?
Oui, la situation à Mouta, comme vous venez de l'apprendre, effectivement, c'était hier vers 13h30, 14h que les M23 commençaient à lancer des bombes sur nos positions. On a d'abord observé, finalement, vers 15h, ils sont entrés à jeu. Et ils ont gardé toutes leurs positions et ce matin, le combat aurait pris avec beaucoup d'intensité. Les bombes étaient attendues dans la ville de Goma. Dieu merci, ce soir, les gens de Goma peuvent dormir tranquillement parce que l'ennemi a été repoussé jusqu'à Kimanyoka, ça déjà au-delà de 15 kilomètres de Goma.
Et donc, on peut dire que la localité de Mutao est sous contrôle des FRDC ce soir?
Toujours sous contrôle des FRDC, même Kibati, qui était le dernier verrou pour le M23, a été récupéré. Donc, nous espérons qu'à cette allure, si la même allure se maintenait, en tout cas, Bomba et Kibomba risquent d'être libérés même demain matin.
Et du côté de Beni, monsieur le ministre, hier matin, les ADF Nalu ont pris le contrôle de la localité de Kikingi. Est-ce que cette localité est toujours sous contrôle des rebelles ou les FRDC ont récupéré la localité?
À somme, les informations qui circulent, qu'il y a eu des violents combats, par exemple, à Kamango et à Kikingi, c'est dire que nos forces étaient déjà positionnées au niveau de l'aéroport de Mavivi. Quand les ennemis, les ADF Nalu avec les alliés Maïmaï ont appris qu'on déployait une force de ce côté-là, c'est à ce moment-là qu'ils se sont lancés à piller d'abord la localité de Kamango. Les quelques éléments qui étaient là ont replié et Dieu merci, les rapports sont arrivés rapidement le matin. C'est comme ça qu'on a poursuivi l'ennemi. L'ennemi a pris la direction de Kikingi. Là, ils sont arrivés à Kikingi et on les poursuivait. Ils ont pillé pharmacie, boutique et maison. Et vers 16h d'hier soir, ils ont quitté Kikingi vers une destination inconnue. Mais nous espérons que probablement ils sont en train de se diriger vers le parc national et le Graben. Là où ils seront peut-être plus à l'aise, mais toutes les dispositions ont été prises avec les colonels qui est à Mutuanga pour qu'on puisse leur barrer la route. Jusque là, ils n'ont pas encore traversé la route vers le Graben. Nous croyons que c'est là leur dernier retranchement qu'ils sont en train de rechercher.
Alors donc, on peut retenir que la localité a été récupérée aussi de Kikingi.
Oui, depuis hier à 16h30, la localité était déjà récupérée. D'ailleurs, les habitants commençaient à rentrer dans la localité.
Mais comment vous expliquez, monsieur le ministre, cette situation très tendue depuis la semaine passée au Nord Kivu?
Nous espérons, comme vous le dites, ce sont des éternuements, disons, les agitations de la Boni. Et ça s'est passé à tous les niveaux. Au niveau de Walikale, c'était entre les Raïs et Mutombo, au niveau de Kassou, dans le sud de Lubero. c'était entre les Maïmaï, les FDLR, au niveau des Goumak, entre les Mpour. Et les FARDC au niveau de Kamango, c'était entre les deux de Snalou et notre armée. Moi, que la brigade est en train de se mettre en ordre, ça agite un peu ce groupe armé. Et bien
allô, monsieur le ministre? Je crois que nous l'avons perdu, la réalité.
Je crois que c'est à cause de ça que ça bouge un peu partout, mais Dieu merci, nos forces sont en train de tenir bon.
Et donc c'est la présence de la brigade internationale, notre, qui agite les groupes armés, selon vous.
Ils voudraient barrer la route et les décourager, c'est ça leur objectif. Bien entendu, comme ce sont des marionnettes, ça ne peut pas provenir d'eux-mêmes, c'est probablement les maîtres en passé qui sont en train d'organiser ça pour essayer de découvrir la brigade d'intervention qui est en train de se mettre en place.
Alors, il y a cet auditeur, monsieur le ministre Jacques de Goma, qui dit ceci. Combien de morts faudrait-il atteindre pour que notre gouvernement puisse agir une fois pour toutes afin d'en finir avec cette guerre obscure? Nous n'avons pas encore senti une volonté de la part de nos dirigeants d'arrêter ces misères qui nous frappent. La population ne sent pas la volonté de la part des dirigeants de mettre fin à cette guerre.
Je crois que les Africains du Nord doivent comprendre. On leur a toujours dit ça, que on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. La première préoccupation, c'était que ces jeunes gens puissent se désolidariser de ce groupe armé pour que nous puissions bâtir notre province. Mais malheureusement, ils se sont des poids faciles à n'importe quelle intervention. Donc je pense que c'est toujours au dernier moment que les gens se découragent, mais les dispositions sont en train de se mettre à place. Et je crois que eux-mêmes, les habitants de Goma, sont en train de suivre ce qui se passe sur le terrain. Et qu'ils ont attendu des bombes qui tombaient de tous côtés au niveau de mon Goma, de mon Niragongo plutôt. Ils ont gardé le calme, ils ont vagué librement à leurs travaux. Donc je pense qu'ils ont compris que leur armée est en train de prendre les choses en main, donc ils peuvent être tranquilles. D'ici peu, je crois que la situation sera résolue.
Merci, monsieur le ministre. Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, comment vous analysez cette situation sécuritaire tendue dans le Nord Kivu depuis la semaine passée, cette agitation des groupes armés?
Merci, madame Kelly. Permettez que je commence par saluer son excellence, monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, ainsi que notre professeur analyste politique, mais également les auditeurs de Radio Okapi. Par rapport à quelle analyse faire, madame, au niveau de la société civile, nous avons toujours estimé que ce à quoi on assiste maintenant au Nord Kivu n'était pas fatal. Franchement, non. Parce que notre coordination de la société civile avait déjà alerté tout le monde, et c'est en temps utile. Nous avons été à Kinshasa au cours de la dernière semaine du mois de mai dernier. Nous avons rencontré le représentant du gouvernement, les élus, le représentant des missions diplomatiques accréditées à Kinshasa, nos partenaires de la MONUSCO et bien d'autres qui sont à Kinshasa, pour que nous puissions les alerter sur la situation sécuritaire qui prévalait au Nord Kivu et qui devait conduire au résultat auquel on assiste maintenant. Nous avons même organisé, madame, la conférence de presse à date du 25 mai, qui a réuni tous les journalistes, tous les organes de presse presque accrédités à Kinshasa, dont Radio Okapi était représentée, et nous sommes revenus sur des aspects particuliers qui devait attirer l'attention des uns et des autres.
Lesquels?
Le premier aspect, madame, nous avions dit que le FARDC, qui avait mis en déroute le M23 à Moutao ce mois-là, venait de faire un travail qui était salué par tout le monde. Mais que, profitant de la trêve, le M23 continuait à se reconstituer et à recevoir de l'appui des éléments RDF, c'est-à-dire de l'armée rwandaise, pour pouvoir relancer les attaques et poursuivre leur objectif d'attaquer Goma. Le deuxième aspect, nous avions attiré l'attention du monde sur l'émergence des réseaux terroristes à territoire de Beni, l'ADF Nalu, qui est allié au El Shabab, à provenance de la Somalie. Et donc, si nous voyons ce qui arrive aujourd'hui, si on est en train d'enregistrer la catastrophe, mais c'est tout à fait prévisible. Qu'est-ce que les uns et les autres, du côté du gouvernement, du côté de nos partenaires de la MONUSCO et des autres États amis, les grandes puissances, ont fait de ces informations pour arriver à permettre à ce qu'on ne puisse pas assister à cette catastrophe. Aujourd'hui, madame, de manière sommaire, son Excellence Monsieur le Ministre est revenu sur la situation à Kamango. Mais lorsque nous revenons sur le bilan, nous, au niveau de la société civile, nous avons enregistré 17 civils tués par la coalition terroriste à Def Nalu. Il y a eu une vingtaine de civils qui ont été enlevés. Bien sûr que certains ont été relâchés, mais 17 ont été tués parmi les civils à Kamango. Plus de 300 boutiques, dépôts à vivre, l'hôpital général ont été pillés et des motos ravis apportées par cette coalition terroriste. À Kikingi, plus de 100 maisons ont été mises à sac par cette coalition. Et pas plus tard qu'hier, madame, au niveau de l'axe routier Mbau-Kamango, bien sûr, la MONUSCO n'est pas en train de parler longuement, mais cette coalition terroriste, ADF Nalu Al-Shabaab, a attaqué un convoi de la MONUSCO. Et nous, les informations que nous avons font état de deux morts dans les rangs de casques bleus, de quatre blessés et deux véhicules, dont un blindé de la MONUSCO incendié par ces groupes armés. C'est pourquoi on doit revenir à la question qu'a dit l'auditeur. Il faut attendre combien de morts pour que notre gouvernement, pour que la MONUSCO, cette fameuse brigade d'intervention des Nations Unies, dont nous avons salué la venue ici, se mettre en œuvre pour défier l'ennemi. Le danger est grand, loin des civils, la MONUSCO est parmi les cibles, et donc on doit quand même réagir et arriver à indiquer tous ces groupes M23, ADF Nalu, AFDLR et les autres pour que l'OPI se rassure de la sécurité des personnes et leurs biens.
Maître Kavota, vous dites que vous avez alerté les autorités, mais quelle était leur réaction? Brièvement, brève réponse.
Toutes les autorités que nous avons rencontrées nous ont dit qu'elles prenaient au sérieux ces informations que les dispositions devaient être prises. Mais aujourd'hui, vous savez que depuis le 25 mai, il s'est passé plus d'un mois, et aujourd'hui on approche au moins deux mois, nous regrettons que le gouvernement réagit toujours lorsqu'il est attaqué par ces rebelles, ou lorsque ces rebelles ou ces terroristes occupent des villages. Merci. Ça devait interpeller tout le monde.
Merci, Maître Omar Kavota. Jean-Jacques Wondo, analyste politique, expert en questions sécuritaires. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées du Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Quelle est votre lecture de ces affrontements de la semaine passée ou du week-end passé dans le Nord Kivu, où les groupes armés se sont vraiment agités?
Oui, madame, ma lecture se résume à 5 points que je vais essayer de résumer. D'abord, cette situation fait craindre un risque très inquiétant de l'internationalisation du conflit avec des menaces claires qui viennent déjà de l'armée ougandaise. Quand vous lisez la presse ougandaise, il y a des menaces, ils ont déjà déployé leurs militaires le long de la frontière. Ils se disent que si l'armée congolaise était capable de pouvoir mettre fin aux menaces de l'ADF Nalu, ils vont traverser la frontière pour aller eux-mêmes régler la situation au Congo. De l'autre côté, quand on va au Rwanda, on se rend compte que le porte-parole de l'armée rwandaise vient de faire un communiqué comme quoi il y a eu des tirs provenant des FRDC vers les villes rwandaises et qu'ils seraient prêts à riposter à l'intérieur du Congo. Et ces risques d'internationalisation se manifestent par le fait qu'on signale aussi, aux côtés de l'ADF Nalu, la présence des miliciens Al-Shabaab. Quelque chose qui peut-être surprendre l'opinion publique, mais pour nous autres, ça fait depuis deux ans qu'on alerte même dans nos analyses l'opinion internationale, même les autorités congolaises sur ces risques, parce que ces milices ont été déjà signalées le long des frontières congolaises. La deuxième lecture consiste à constater l'échec du processus de la réforme des services de sécurité initié il y a de cela 10 ans, en 2003. Et aujourd'hui, tous les programmes DDR, désarmement, démobilisation, récession, montrent leurs limites parce qu'on est en face d'une prolifération de groupes armés qui sèment la terreur à l'Est. Et la troisième lecture concerne le manque d'engagement ferme de la communauté internationale. Là, je rejoins M. Kavota parce que tout le monde a salué l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que le vote de la résolution 2098 qui donnait mandat à une force spéciale de l'ONU de pouvoir intervenir via des missions offensives. Aujourd'hui, quand vous lisez le communiqué que la MONUSCO a publié, la MONUSCO dit elle se met en alerte en vue de protéger les populations. Mais elle n'est plus dans une logique, dans une dynamique de pouvoir prendre le devant pour aller mettre fin à l'existence de ces groupes armés. La MONUSCO dit qu'elle est là pour pouvoir défendre, protéger les populations. Or, on peut protéger les populations soit si sont des FARDC qui s'attaquent à ces populations parce qu'on sait par le passé que certaines unités ont commis des exactions, ou si le M23 aussi attaque ces populations. Donc, on sort de la logique où cette force allait plutôt s'attaquer aux groupes négatifs, notamment le M23. On est dans une logique où la MONUSCO joue toujours un jeu assez subtil et qui commence peut-être à inquiéter les Congolais. Et
quatrième point.
Quatrième chose, c'est vraiment constater aussi le déficit de l'autorité, de la présence de l'autorité de l'État sur ces zones, parce que jusqu'à présent, l'autorité éprouve des difficultés à pouvoir s'imposer dans cette partie du territoire national. Je vais m'arrêter jusque-là, ces quatre points, on pourra revenir plus loin avec d'autres aspects.
Alors, vous parlez de l'échec du processus de réforme des services de sécurité, Jean-Jacques Rondeau, mais est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même l'action de FARDC sur les M23 et ADF Nalou, les FARDC qui ont réussi à repousser les M23 et même à reprendre les localités qui étaient sous occupation des ADF Nalou?
Saluer, non, on peut quand même encourager qu'il y a cette fois-ci une volonté de vouloir aller de l'avant, mais c'est là qu'il y ait des réformes assez profondes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une action occasionnelle. Vous avez vu qu'ils ont été délogés, mais ils sont allés occuper d'autres territoires où ils ont commis des exactions. Donc il y a juste une délocalisation. Et en effet, les délocalisations de l'insécurité, c'est pas qu'ils ont délogé pour aller de l'autre côté et on ne sait pas s'ils peuvent revenir en force ou pas. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Kavota et qui dit que avec toutes les analyses qui ont été faites, toutes les recommandations qui ont été faites auprès des autorités, ils sont dans une stratégie de réaction. Or, on dit que qui veut la paix prépare la guerre. Monsieur le ministre a dit que voilà, on sait quand on peut commencer une guerre, mais on ne sait pas quand on peut la terminer. Mais moi, je pense que quand on est dans une dynamique, dans une stratégie de pouvoir aller à la confrontation militaire en se préparant, on peut prendre des mesures proactives pour éviter que la situation dégénère, de sorte que le FARDC soit maître des territoires. Mais le FARDC ne doit pas attendre qu'elle soit attaquée pour pouvoir réagir, parce qu'une fois que vous êtes attaqué, il y a toujours des dégâts collatéraux. Voilà,
madame. Monsieur Jean-Jacques Kondo, comment on peut expliquer la présence des Al-Shabaab aux côtés des ADF Nalou? Est-ce qu'il y a une explication à cela?
L'explication, c'est assez longue, mais il faut dire que les Al-Shabaab, ce sont des miliciens qui proviennent de la Somalie, et certains sont déterminés à pouvoir sanctionner des pays qui soutiennent, par exemple, la mission AFRISOM en Somalie. Que pour cela, par exemple, vous avez vu qu'il y a quelques années, il y a eu des attaques en Ouganda, et on les a même signalés le long de la frontière du Congo avec le Burundi. Et je pense que ce sont des miliciens qui font coalition avec notamment les groupes armés qui essaient de prendre le Sud-Soudan en étau pour pouvoir créer une sorte de solidarité négative entre tous ces groupes-là, de sorte à pouvoir revenir en Ouganda, et qui soutient fermement la mission de l'ONU contre les musulmans, contre les islamistes. Merci. En Somalie et dans la Corne de l'Afrique.
Merci Jean-Jacques Rondeau. Monsieur le ministre, vous avez suivi les analyses de Maître Marc Kavota et de Jean-Jacques Rondeau. Par rapport, Maître Marc Avoto nous a dit tout à l'heure que toutes les autorités étaient informées, étaient alertées par rapport à la situation sécuritaire qui était un peu, qu'il fallait s'attendre à des attaques des groupes armés dans le Nord Kivu. Apparemment, ils n'ont pas eu des réponses des autorités.
Moi, je pense que ils l'ont même dit aussi, même l'expert lui-même l'a dit. En somme, le FRDC, c'est une force républicaine. Elle est aussi soumise aux différents accords qu'on a signés par-ci, par-là, qui les limitent dans les actions. Peut-être pour les formations, déjà depuis qu'on a signé, par exemple, les accords de l'Ouganda, il était pratiquement interdit à nos militaires de mettre les pieds dans la ville, et donc la ville jusque-là était gardée par un seul bataillon de commando. Donc c'est respectant, et d'ailleurs, tout la communauté internationale qui défile à Goma ne cesse de dire que la guerre seule ne pourra pas terminer. La guerre ne pourra pas amener la paix dans la province, qu'il faut absolument que la négociation soit couplée avec les actions d'attaque. Alors ça met notre armée dans une position d'offensive qui, comme me l'a dit l'expert, effectivement, ça nous désavantage, et quand on doit respecter tous ces accords-là, internationaux et du niveau régional, ça laisse que notre action arrive tardivement, parce qu'on se pose des questions, si on fait ceci, il y aura encore tel conflit. Donc ça nous retarde dans les réactions, on n'a pas une réaction prompte, tout à considérant que peut-être les accords, par exemple les négociations de Kampala, pourra amener des résultats. De deux, c'est la vaste étendue qu'on doit couvrir, que notre armée doit couvrir, il faut recourir à des troupes qui doivent venir d'autres provinces. Comme je venais de vous le dire, les troupes qui sont venues en renfort pour Kamango, pour protéger la collectivité de Wataringa et Kamango, ça fait 5 jours au niveau de l'aéroport de Mavivi, on n'avait pas encore eu le moyen de les déployer sur le terrain, si bien qu'on a été obligé de les larguer sur le terrain, à les amener à Mutwanga. De là, ils ont fait à peu près une 60 km à pied. Donc, vous comprenez que ça retarde notre réaction, tout en considérant ça, c'est avec l'œil de la MONUSCO qui est toujours à côté de notre FRDC. Donc voilà autant d'éléments. Et il faut avouer aussi que les éléments de FRDC, si on peut encore compter, comme vous connaissez ce que nous avons connu comme infiltration, a réduit sensiblement le nombre de nos effectifs. Si bien que, vu l'étendue à couvrir, ça retarde quand même en train de faire des calculs à tel endroit où on a autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'un moment à l'autre, il faut absolument garantir certains coins pour venir renforcer un autre coin. Et effectivement, ça donne l'occasion à des groupes négatifs de réoccuper les positions avec nos FRDC.
Alors, monsieur le ministre, par rapport à la présence des El-Shabaab aux côtés des ADF Nalou, est-ce que les autorités congolaises mesurent cette menace-là de ces rebelles El-Shabaab aux côtés des ADF Nalou qui viennent combattre les FRDC?
D'ailleurs, Son Excellence Monsieur le Gouverneur Julien Paulo Kaunkia a déploré ça plusieurs fois, parce que ce qui se passe là-bas, là où ils sont en train d'enlever les gens, ils sont en train d'apprendre la pipe, d'apprendre l'arabe, donc c'est une menace sérieuse, ça risque à certains moments d'aboutir à la formation de kamikazes, et ça sera une situation qu'on ne saura plus gérer, ça va dégénérer.
Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Soit à Somalie, soit au Mali.
Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Justement, c'est la traque. Maintenant, la traque a commencé. Je crois que cette fois, nous n'allons plus nous arrêter.
Merci, monsieur le ministre. 120 assaillants tués et une douzaine capturés. Une dizaine de militaires FRDC tués. C'est le bilan provisoire des affrontements qui ont opposé hier dimanche les FRDC au M23 à Moutsao et Roussayo, de localités à 10 km au nord-ouest de Goma. Bilan fourni ce lundi par le porte-parole du gouvernement congolais au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Lambert Mende parle d'une attaque de l'armée régulière rwandaise sous couvert du M23. Le porte-parole porte-parole du gouvernement, qui est revenu maintes fois sur le Rwanda, accuse ce pays d'avoir violé l'accord cadre d'Addis Abeba en accordant asile à 682 membres du M23 et le Runiga. Le Rwanda crache sur la brigade internationale dans une correspondance adressée aux Nations Unies pour justifier la reprise des hostilités avec l'attaque d'hier, comme le dit Lambert Mende dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
Sans le moindre début de preuve, le Rwanda accuse la brigade internationale et les forces armées de la République démocratique du Congo de soutenir, voire même de armer les FDLR. Il est affirmé avec un incroyable aplomb que des officiers supérieurs de la brigade internationale spéciale de la MONUSCO ainsi que leurs homologues congolais auraient tenu des réunions de coordination avec les FDLR pour déstabiliser le régime en place à Kigali. En fait, pour nous, il n'y a rien de neuf dans ces accusations, des accusations gratuites. On se trouve bien en face des stéréotypes habituels de la propagande de nos voisins chaque fois qu'ils tentent de justifier l'injustifiable. Depuis que a été épuisé le fameux argument identitaire, les Congolais ayant resserré leur rang, quelles que soient leurs origines tribales.
Du côté de la MONUSCO, on se dit profondément préoccupé par l'attaque du M23 dimanche dernier aux positions des FRDC à Mutao, localité située à 8 km au nord-est de Goma. Dans un communiqué parvenu ce matin à Radio Okapi, la MONUSCO affirme qu'elle ne tolérera aucune menace sur Goma ou contre les civils. Pendant ces temps, les attaques des M23 autour de Goma et des ADF Nalu vers Beni continuent à dégrader la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. Mais que fait la brigade d'intervention en cours de déploiement dans l'est de la RDC? Le porte-parole de la MONUSCO, le colonel Félix Bass, répond au micro de Michel Kifinda.
On semble mettre en exergue le déploiement de la brigade d'intervention et la solution définitive à tous les problèmes de sécurité à l'est. Ceci est une mauvaise approche. Et deuxièmement, je pense que la brigade d'intervention à elle seule ne peut rien faire. Il y a des phases initiales après déploiement, avant toute conduite des opérations. Mais la brigade d'intervention, encore moins la force de la MONUSCO, n'est pas au Congo pour protéger les positions FRDC. Donc, la brigade d'intervention est en train de travailler, de se déployer. La brigade d'intervention est en train de se préparer pour des phases ultérieures d'opérations qui seront des opérations ciblées qui permettront de neutraliser ou en tout cas de réduire significativement les activités des groupes armés dans cette province du Nord Kivu, avec ou sans l'armée congolaise.
Maître Omar Kavota, comment vous analysez les propos du porte-parole militaire de la MONUSCO par rapport à cette situation qui prévaut dans le Nord Kivu?
Vous savez, de plus en plus, la population du Nord Kivu commence à s'impatienter. On a reçu beaucoup de promesses, parce qu'en dehors de ce que viennent de dire les porte-parole militaires de la MONUSCO, nous avions d'ailleurs dit que nous tenons au mot le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, lors de sa visite. Et nous avions également tenu au mot cette autre personnalité qui avait suivi après la visite de Ban Ki-moon, qui avait annoncé que la brigade d'intervention des Nations Unies devait se mettre en œuvre dans un ou deux mois. Et les deux mois sont épuisés naturellement au cours de ce mois. On est en train de demander finalement, est-ce que cette brigade des Nations Unies est venue combattre ces forces négatives ou carrément elle est en train de céder à la peur parce que le M23 sont en train de cracher à pleine journée sur cette brigade, les ADF Nalu crachent sur la MONUSCO. Il tue des casques blés, il incendie le véhicule des Nations Unies. Et est-ce qu'il faudrait encore avoir des raisons pour ne pas prendre l'initiative de la force? Nous pensons qu'au-delà des efforts consentis par le gouvernement congolais, les Nations Unies à travers la MONUSCO, plus particulièrement à travers la brigade d'intervention des Nations Unies, doivent maintenant agir. Parce que des millions des Congolais sont vraiment leur vie est en danger, on doit agir. Et aussi,
Vous avez suivi, le porte-parole a dit que cette brigade est en train de se préparer pour des opérations bien ciblées.
Madame, elle va se préparer pendant combien de temps? Plus de 70%. C'est d'ailleurs le porte-parole des Nations Unies de la MONUSCO qui l'avait annoncé que plus de 70% de la force était déjà là. Bon, si elle ne peut pas s'engager sur toutes les lignes, sur toutes les cibles, dont les M23, les FDLR, les ADF Nalu et les autres milices, au moins, quand la vie de Goma est aujourd'hui menacée, cette brigade devait agir aux côtés des FARDC pour libérer définitivement ce territoire de Nyiragongo et le territoire de Rutshuru. Et aussi, du côté du gouvernement, nous avons toujours appris que les ordres viennent de Kinshasa pour demander à nos troupes de s'arrêter. Cette fois-ci qu'ils sont en train d'avancer, nous pensons qu'il n'y aura pas quelconque ordre à provenance de Kinshasa pour demander aux FARDC de s'arrêter. Nous devons assister à la libération définitive du territoire de Nyiragongo et du territoire de Rutshuru, et la brigade d'intervention des Nations Unies doit se mettre en œuvre pour accompagner les FARDC dans ce travail.
Merci, Maître Marc Avota. Jean-Jacques Ondo, on vient de suivre le porte-parole militaire de la MONUSCO qui dit que penser que cette brigade viendra mettre définitivement fin à la guerre dans le Nord Kivu est une mauvaise approche. Elle est là pour aider l'armée du Congo et donc c'est au gouvernement et à l'armée congolaise de fournir d'abord beaucoup d'efforts pour arriver à maîtriser ces groupes armés.
Je suis assez dubitatif quant à la volonté réelle de la brigade de pouvoir éradiquer ou de réduire l'insécurité à l'Est. Et je pense que les propos tenus ou l'argumentation développée par M. Kavota, il a fait une bonne analyse, je peux dire, stratégique militaire, parce que combien de temps faut-il à la brigade pour pouvoir se déployer, d'autant plus qu'il y a déjà 70% des éléments de ces brigades qui sont sur place, et parmi ces éléments, il y a un bataillon entier de Sud-Africains qui était là sur le terrain. Donc ce n'est pas une unité qui doit encore prendre connaissance des lieux, qui connaît les lieux et qui peut, avec un bataillon de 900 personnes, pouvoir non seulement défendre le territoire, mais mener aussi des actions ciblées aux côtés des FARDC ou unilatéralement. Or ici, ils sont dans une position du mandat qui a été confié plutôt à la MONUSCO de départ de protéger les populations civiles au cas où cette population est attaquée. Mais aucune fois on voit cette volonté de pouvoir aller de l'avant et je crains fort que cette période, surtout une période de l'été où tous les chefs de la MONUSCO sont à vacances, que cette brigade puisse y prendre une position offensive, d'autant plus qu'ils ne savent pas comment les opérations peuvent se dérouler sur le terrain. Actuellement, beaucoup de cadres de la MONUSCO sont en vacances au soleil et malheureusement pour nos populations, ce n'est pas le moment indiqué. Ils sont en train de faire un service que j'appelle un minimum.
Jean-Jacques Ondo,
l'appel lancé par le porte-parole pour FARDC de se prendre en charge et de pouvoir aussi défendre. Et là, je rejoins M. Kavota qui a dit par le passé, on a vu les FARDC prendre le dessus sur l'armée et même au mois de on peut même remonter au mois de mars quand il y a eu de lutte interne au sein du M23 entre le groupe de Makenga et le groupe de Tangada et Runiga. Ils ont abandonné des territoires que les FARDC ont investis. Les ordres sont venus de Kinshasa pour se retirer au motif qu'ils doivent respecter les accords. Mais de l'autre côté, on sait que le M23 n'a jamais respecté les accords, on ne s'est jamais déployé à plus de 20 kilomètres de Goma.
Merci.
Donc, cette fois-ci, je pense que il faut demander à la population civile de rester vigilante, de mettre la pression pour accompagner les FARDC dans leur mission de défense.
Merci, Jean-Jacques. Merci.
Je pense que c'est la seule option qu'on peut...
Merci, Jean-Jacques Wondo. Teddy Mukendi Diaz de Bukavu Sud Kivu, que le gouvernement arrête avec les discussions des Kampala parce que cette énième guerre prouve la mauvaise foi du M23. Comme les options diplomatiques et politiques semblent ne pas donner des solutions attendues, il faut soutenir la solution militaire en renforçant les positions des FARDC sur les fronts de combat, de combattre les M23 jusqu'à les déloger des localités qu'ils occupent. occupe. Christian Mastaki, les M23 résistent parce que, selon moi, il y a des politiciens congolais qui veulent voir la population souffrir et ainsi maintenir leur positionnement politique. Compte tenu du fait que le dialogue de Kampala ne résoudra pas le conflit au Nord Kivu, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'utiliser la force pour en finir avec toutes ces rébellions? Nous sommes déjà dans la deuxième et dernière partie de l'émission. Docteur Valérien Mbalou, je rappelle que vous êtes ministre provincial du Nord Kivu, de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation? Vous avez suivi ces deux auditeurs qui vous proposent l'option militaire parce qu'on a l'impression que l'aspect diplomatique et politique ne marche pas.
Je pense, comme je l'ai dit au début, on devra privilégier les deux options. Mais je suis d'accord avec un collègue intervenant que cette fois, comme notre armée se comporte correctement sur le front, et qu'il n'y ait pas d'ingérence et qu'on la laisse d'abord faire son travail, parce que depuis les attaques qui viennent de se passer au niveau de Mutahu, en tout cas, on est fan de ce se comporte très bien. Je pense qu'il faudra plutôt songer à les soutenir et à les encourager pour qu'ils aillent de l'avant. Parce que si on doit donner quelques corrections à ces groupes armés, notamment le M23, ça pourra quand même dissuader les autres groupes armés pour suivre la ligne, s'aligner, par exemple, à l'intégration ou à reddition pour qu'ils puissent intégrer l'armée nationale ou la démobilisation. Donc ça, c'est un élément important. Il faudra que nous puissions tous y soutenir, spécialement le niveau central. Nous aider à soutenir une fois de ceux qui se comportent très bien sur le front. Si vous connaissez qu'ils éprouvent de sérieux problèmes dans les territoires de Nyiragongo, là où il n'y a aucune source d'eau, donc tous ceux qui prennent là-bas comme eau, c'est de l'eau qu'on doit acheter, on doit les approvisionner chaque fois.
Merci.
Et c'est ici aussi de souligner peut-être, remercier la Mondisco qui est en train de les soutenir en logistique, y vivre. Et c'est pour ça que nos militaires se comportent très bien sur terrain.
Merci,
sinon,
monsieur le ministre.
Pour ne pas les aider, je pense, la communauté internationale, il faudra absolument qu'il y ait des dialogues. Et c'est ça la stratégie que nous avons adoptée au niveau de la province.
Merci, monsieur le
d'abord
ministre.
D'abord, ces groupes armés, au moment où ils manifestent une réticence notre part, donc à ce moment-là, on est obligé de passer à la frappe.
Merci, monsieur le ministre. Maître Omar Kavota, faut-il privilégier l'option militaire?
Tout à fait, c'est là que nous avons toujours soutenu depuis longtemps. Nous devons saluer le courage des FRDC sur le front et les assurer que nous allons aussi les soutenir. Les forces du Nord qui vont contribuer pour qu'ils assurent efficacement cette tâche. Nous pensons également que la brigade d'intervention de la Monisco n'a pas raison de s'abstenir à s'engager militairement pour éradiquer le M23. Les ADF Nalu, les El Shabab et les autres groupes. Il est temps que cette brigade agisse ou carrément qu'elle nous dise qu'elle ne va pas combattre et qu'on sache qu'on va réfléchir autrement pour trouver une solution à ce problème. Mais nous pensons qu'il est temps que la Monisco, à travers sa brigade, agisse. Il est temps également que l'on rompe avec ces fameux pour parler de Kampala. Parce que pour nous, c'est un non-sens.
Merci.
On ne sait pas pourquoi le gouvernement continue à tenir.
Merci.
Est-ce qu'il faut toujours continuer à respecter les accords parce qu'on vous demande de les faire?
Ou
parce que quand l'État est en danger, on doit dépasser
ces
accords comme le font les autres pour sauver la patrie en danger.
Merci, Maître Kavota. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Jean-Jacques Ondo, un mot en guise de conclusion. Quelle est la solution que vous proposez pour mettre fin à cette crise?
Pour être logique, suivre dans la lignée de mes prédécesseurs, donc je pense que l'option militaire n'est pas uniquement à privilégier parce que on connaît les temps de conditionnement des FRDC qui ne sont pas tout à fait au top, mais il faut quand même réactiver l'option militaire tout en exploitant d'autres aspects diplomatiques. Jusqu'à présent, on ne voit pas le Congo prendre le devant sur la scène diplomatique, malgré les résolutions qui ont été prises.
Merci.
C'est plutôt l'œuvre des ONG, de la société civile qui ont amené la communauté internationale.
Merci.
À pouvoir se positionner. Donc, que le Congo prenne le devant sur le plan diplomatique pour pouvoir inciter la MONUSCO, l'ONU,
merci,
à pouvoir
Jean-Jacques.
Être active.
Merci Jean-Jacques Ondo. Monsieur le ministre, un mot pour conclure.
Et mon coup pour conclure, c'est de demander à notre population de la province Nord Kivu et d'une façon caractère spécifique la population de Nyiragongo, de territoire du sud de Lubero, d'être extrêmement vigilant parce que jusque-là, ils se sont bien comportés.
Merci, monsieur le ministre. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.